Puis un jour, pouf, terminé. Leur vie s'éteint. Ils sont morts. Qu'est-ce qui reste de leur vie? Du vent. Zéro. Comme a dit un humoriste, tout ce qui reste de leur vie, c'est un chariot de supermarché rempli à ras-bord. La vie, c'est quand même autre chose. C'est beaucoup plus intéressant et passionnant que tout ça. Mais ça doit passer par le spirituel. Tant qu'on n'est pas dans le spirituel, on est comme une plante, on est comme un animal, on survit, on est dans l'instinct. Mais Dieu nous a donné un esprit pour communiquer avec lui. Et cet esprit, tant qu'il n'est pas en relation avec Dieu, il souffre, il est vide. Et le cœur est vide. Quand j'étais athée, je m'amusais beaucoup, je faisais plein de choses rigolotes, je prenais mon pied, j'étais étudiant, donc voilà, je m'amusais bien, mais quand arrivait le dimanche soir, par exemple, ce qui restait profondément en moi, c'est un cafard, un vide, une angoisse abyssale. D'ailleurs, la seule chose que je trouvais pour répondre à cette angoisse, c'était écrire des poèmes. Il fallait que j'exprime quelque chose pour répondre à cette angoisse. Et mes poèmes étaient pleins de cette angoisse, mais ça ne suffisait pas. C'est seulement le jour où j'ai commencé à lire la Bible que j'ai commencé à trouver des réponses à ce vide. La Bible donne la sagesse. Je vous lis par exemple dans le livre des Proverbes écrit par le grand roi Salomon, qui a écrit justement des livres de sagesse. Proverbe 1, 7, la crainte de l'Éternel, donc la crainte de Dieu, est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. J'étais un insensé, je méprisais la Bible, je méprisais les chrétiens, je méprisais Dieu. Je disais, aujourd'hui on en sait plus que la Bible, hein. On est au 21e siècle quand même. On connaît hein, les tréfonds du monde atomique, on connaît les étoiles, on a envoyé des sondes hein, au fin fond du système solaire. Et pourtant, on ne connaît rien, rien par rapport à la sagesse. La preuve, nos sociétés sont complètement en décadence. Les gens ne savent pas comment se comporter. Proverbe 3, verset 5, il ajoute « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur » et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ma sagesse est tellement petite, tellement légère. Elle ne peut pas répondre à tous les besoins de la vie. Comment trouver la paix de l'âme? Comment être juste? Comment vaincre le mal? J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul a dit dans la Bible, et c'est pour ça que la Bible est actuelle, c'est qu'elle décrit le cœur humain tel qu'il est, tel qu'il a toujours été. Il écrit « Il n'y a rien de bon en moi. » Voilà. « Et je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire « Je voudrais faire le bien, j'ai plein d'idéaux, ah !» Voilà, tiens, on pourrait faire ça. Mais ce qui sort de moi, c'est le mal. Et le mal que je m'interdis de faire, je dis non, ça c'est vraiment mal, est plus fort que moi, il finit par sortir. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Moi, c'est ça qui me désespérait quand j'étais athée. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de Dieu, donc je peux être un bon homme. Je peux être un homme bon, un humaniste. Et j'ai essayé d'être bon, et juste, et droit. Et tout ce qui sortait de moi, c'était l'égoïsme, l'orgueil, le mensonge, la rébellion. Il ne sortait pas de droiture, de justice. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi moi, je ne peux pas être droit? Jusqu'au jour où, en lisant la Bible, j'ai compris qu'il y a le péché qui habite en moi. Il y a une force maléfique en moi qui est plus forte que mes idéaux, et mes bonnes idées, mes beaux désirs. Et ça s'appelle le péché. Même si c'est un vieux mot, le péché est toujours actuel. Comment vivre ma vie présente? Comment utiliser mon argent? Vous savez que c'est dans la Bible, ça? La Bible parle énormément d'argent. mais pas de notre façon égoïste, mais elle explique comment le partager, le donner, l'utiliser, le gagner honnêtement. Comment être un bon mari, un bon père, une bonne épouse, une bonne mère. Comment vivre en paix malgré les épreuves de la vie. Comment faire face aux situations les plus difficiles. Comment faire face aux êtres humains qui vous veulent du mal, à vos ennemis. Souvent, on cite la Bible dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. On dit, ah, vous voyez, la Bible, elle dit quand même, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire, tu me fais un coup, moi je te rends l'appareil. Mais savez-vous que ce verset n'a jamais voulu dire ça? Ça n'est pas un verset d'appel à la vengeance. Au contraire, c'est dans la loi de Moïse, c'est dans une loi civile. C'est que si on te fait du... Si quelqu'un fait du mal à ton animal, hein, il donne des exemples d'ailleurs après. Si quelqu'un blesse ta vache ou ton mouton, il va payer pour le mal qu'il a fait, c'est-à-dire une vache ou un mouton, s'il a blessé une vache ou un mouton. S'il tue quelqu'un, il va payer une forte somme pour remplacer la vie d'un animal ou s'il assassine quelqu'un, il est digne de mort, il est coupable de mort. Mais pourquoi il y a cette loi œil pour œil, dent pour dent? C'est parce qu'avant les hommes... Tu me donnais un coup, tu me faisais trébucher ou tu blessais ma vache et moi je décimais ton troupeau. C'était la vendetta, hein, c'est-à-dire tu me fais ça et moi je te fais ça. Et c'est pour ça que Dieu a institué cette loi en disant soyez juste, œil pour œil, dent pour dent. Voyez comme on peut mal interpréter la Bible, hein, quand on a l'esprit de travers. La Bible nous enseigne justement à être juste et droit. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus parle beaucoup de pardonner à ses ennemis. Alors là, ça va encore plus loin, puisqu'il dit, vous avez lu dans la loi qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis, dit le Seigneur, pardonne à tes ennemis, bénissez les autres. Vous me dites, mais c'est impossible. Comment voulez-vous pardonner à un ennemi? C'est le monde à l'envers. Un ennemi, par définition, c'est quelqu'un à qui vous ne pardonnez pas. Vous pardonnez à votre famille, à vos proches peut-être, mais un ennemi, non. Eh bien, la Bible nous appelle à pardonner à nos ennemis, ce qui est impossible humainement, à moins que l'amour de Dieu soit venu dans votre cœur. J'aimerais terminer avec la troisième utilité, si on peut dire, de la Bible. On a vu d'où l'on vient, on a vu comment vivre dans cette vie présente, mais surtout, où irai-je ? Dans l'avenir. L'avenir, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les hommes. C'est pour ça qu'ils se tournent vers beaucoup de voyants, d'astrologues et de choses occultes. Il y a toutes sortes de superstitions, le pendule, le marc de café, le thème astral. On essaye de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et ça tombe souvent à l'eau. Je vous ai cité récemment plusieurs fois cette prédiction d'Elisabeth Tessier, l'astrologue la plus connue de France, et je me fais un plaisir de le redire ici ce soir, qui en décembre 2010 a annoncé, en étudiant le thème astral de Dominique Strauss-Kahn, qu'il allait avoir une année 2011 merveilleuse. Merveilleuse. Elle prédisait son élection future en 2012 à la présidence et que 2011 allait être la plus belle année qu'il aurait jamais eue. Effectivement, il risque de finir en prison. Elle a commis une petite erreur, là. Pourtant, elle a bien lu dans son thème astral. Hein. Il n'y a qu'un seul livre qui peut vous prédire votre avenir, vraiment. C'est celui qui est écrit par Dieu, parce que Dieu est éternel. Il voit l'avenir. Satan ne voit rien. Il fait semblant et il utilise ses techniques hein, d'astrologie, etc., qui n'ont rien de scientifique, pour faire croire qu'il peut lire l'avenir. Notre avenir, c'est que malheureusement, nous allons mourir. Or, la pensée matérialiste a pris une partie de la Bible. Elle a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et donc, on dit, ben, après la mort, on retourne à la poussière et c'est terminé. Donc, vivons bien tant qu'on est sur la terre. C'est joli de le dire, mais il y a très peu de gens qui vivent comme ça, en fait, qui ont cette philosophie. Mais beaucoup croient qu'après la mort, c'est terminé, puisque, vous voyez bien, le corps redevient poussière. Mais ils oublient que la suite du passage, le corps retourne à la poussière, mais l'âme retourne à Dieu. C'est ça que dit le verset. Et Jésus va même plus en détail dans Matthieu 25, 46. Il parle des deux destinations. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Le châtiment éternel, la vie éternelle. Ce n'est pas seulement Jésus qui en parle dans la Bible, c'est l'Ancien Testament. Le prophète Daniel dit que les hommes ressusciteront, tous les hommes ressusciteront, les uns pour le châtiment éternel, les autres pour la vie éternelle, la gloire éternelle. C'est quelque chose qui est dans la Bible très clairement énoncé. Alors, la question c'est où vais-je aller après la mort ? Parce que la Bible annonce qu'il y aura un jugement. Et c'est en cela qu'elle est très précieuse. C'est que la Bible ne nous ment pas sur notre situation. Elle ne nous laisse pas dans l'illusion que, ben voilà, tu vis une petite vie tranquille, un peu égoïste, et puis tu meurs et puis on n'en parle plus. Non, elle nous avertit. Tu meurs et on en parle encore parce que ton âme continue de vivre. Mais elle continue de vivre et elle va faire face à un jugement. Dieu va juger le monde. Et je crois que c'est vraiment le message le plus important et en même temps le moins entendu du monde. D'ailleurs, il y a même des gens qui s'affâchent quand on dit « va y avoir un jugement de Dieu ». Ah, mais quoi ? Mais comment ? Mais pourquoi ? Parce que notre conscience, encore une fois, que Dieu a mise en nous, elle sonne, hein, un jugement. Ouh, je ne suis pas prêt à affronter le jugement de Dieu. Je ne suis pas prêt. Parce que notre conscience, elle a accumulé justement cette mémoire de tous nos péchés qui s'accumule. Tout le mal, toutes les désobéissances à la loi de Dieu. Et même si on ne connaît pas bien la loi de Dieu, on ne connaît pas bien la Bible, notre conscience a des lois. Et quand on les transgresse, c'est inscrit dans la mémoire profonde de notre conscience. Et quand ça ressort, quand ça explose la mémoire de la conscience, c'est terrible. Hein? Il y en a qui se suicident. Il y en a qui deviennent fous. Hein? Ils perdent complètement tout bon sens. Il y en a qui craquent, qui deviennent violents. Mais la Bible nous dit qu'il y aura un jugement, mais que Dieu a tout fait, mais alors tout fait, pour qu'on n'y passe pas. Pour qu'on y échappe. Et c'est tout le message de la Bible, c'est que Jésus est venu pour nous faire échapper à ce jugement dernier. Et c'est que Jésus a été jugé déjà pour nos fautes. Et celui qui met sa foi en Jésus-Christ, le jour du jugement, passera par la porte à côté. Vous savez, c'est comme s'il y avait deux portes, la porte du jugement dernier et la porte du salut. Vous, vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez donc votre promesse que celui qui croit au Fils reçoit le pardon de ses péchés, qui ne viendra pas en jugement, mais il a la vie éternelle. Vous avez cette promesse qui est dans la Bible. Et vous arrivez devant les deux portes et l'ange vous accueille. Ce n'est pas Saint-Pierre. Saint-Pierre n'accueille personne au paradis. L'ange vous accueille et dit « Alors ?» Est-ce que tu vas affronter le jugement ou le salut ? Et vous dites, mais moi, j'ai cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. J'ai sa promesse. Alors tu passes par la porte du salut. Mais celui qui arrivera dans la mort sans cette foi en Jésus-Christ, il va devoir passer par le jugement. Et la Bible décrit le jugement dans le livre de l'Apocalypse. Il dit que des livres, Apocalypse 21, 20 et 21, des livres sont ouverts et un livre est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les livres qui sont ouverts ? Dans les livres, il y a toutes les œuvres que vous avez faites. Et dans le livre à côté, c'est le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire le livre de Jésus-Christ où il y a les noms de tous ceux qui sont sauvés. Et au jour du jugement, on va ouvrir le livre de votre vie. On va voir les œuvres. Et d'après vous, je vous pose la question, combien y aura-t-il d'œuvres justes ? par rapport au péché. Combien avons-nous fait d'œuvres justes dans notre vie? Mais vraiment justes, attention, hein? Parfaites, droites. Pas aider un petit peu quelqu'un, je parle d'une œuvre juste, parfaite. Même s'il y en a 5, ce qui est déjà pas mal pour un être humain. S'il y en a 5, il y a combien de péchés à côté? Des millions, parce qu'il y a ceux que l'on connaît, on se souvient, mais il y a des millions de péchés qu'on commet même sans s'en rendre compte, en désobéissant à la loi de Dieu. Et dans ce livre, il y aura cette somme de péchés qui va nous éclater au visage. Et si notre nom n'est pas dans le livre de vie, nous serons condamnés pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'annonce la Bible. Voilà ce qui se passe après la mort. La Bible ne dit pas « c'est mystérieux, nous ne savons pas ». Non, la Bible décrit ce qui se passe après la mort. Et pourquoi elle le décrit? C'est pour nous avertir avant de mourir. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », dit le prophète. Ce n'est pas avant la mort qu'il faut se dire « bon, allez, il me reste 10 minutes à vivre, je vais mettre tout en règle ». Croyez que vous aurez le temps de mettre tout en règle? Combien de fois j'ai rencontré des gens en parlant de l'Évangile, ils ont dit « oh, pour l'instant, je n'y pense pas. Quand je serai à la retraite, peut-être, je lirai là un peu la Bible. » Mais qui sait si vous allez atteindre l'âge de la retraite? Qui sait si à l'âge de la retraite, vous aurez envie de lire la Bible? En général, plus on vieillit, plus on s'endurcit. C'est maintenant le jour de se mettre devant Dieu, le jour de se repentir, dit la Bible, le jour de réfléchir à sa vie. Et de mettre sa vie en règle. Comment mettons sa vie en règle? Alors, est-ce qu'il faut mener une vie juste? Oui, ça, c'est la théorie. Il faudrait que nous menions une vie parfaite de notre naissance à notre mort pour être acceptés au ciel. Y a-t-il un homme juste sur la terre? Non. Y a-t-il eu un homme juste sur la terre? Un seul à notre connaissance et selon la Bible, c'est Jésus de Nazareth. Pour le reste, personne n'est juste. Il n'y a pas d'homme juste, donc forcément, il faut chercher le pardon de Dieu, puisqu'on ne peut pas gagner son ciel. Il faut être gracié. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. L'autre jour, j'étais dans le train, je parlais avec un monsieur très compétent dans son métier. Il était infirmier dans un bloc opératoire et il disait qu'il était catholique, assez croyant et pratiquant. Et puis, dans la conversation, je lui ai dit « Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ est venu et pourquoi il est venu mourir sur cette croix ?» Il m'a dit « Je n'ai aucune idée. » Pourtant, c'est le cœur de l'Évangile. Jésus-Christ est venu mourir sur cette croix pour nous sauver du jugement de Dieu. Pour payer nos péchés, notre dette, que nous ne pouvons pas payer, qui est trop chère, et pour inscrire notre nom dans son livre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Son nom est écrit dans le livre de vie. Et le jour du jugement, eh bien, ce sera comme si vous arrivez au baccalauréat, vous savez. Ceux qui l'ont passé savent de quoi je parle. Hein. Vous avez les tableaux, là. Maintenant, ce n'est plus par tableau, hein, c'est par Internet, mais à mon époque, il y avait les tableaux et vous cherchez votre nom frénétiquement dans l'ordre alphabétique. J'y suis ou j'y suis pas? Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Jésus-Christ, ce n'est pas un examen. Vous ne dites pas « j'espère que j'ai fait assez de bien ». Non, vous n'avez pas fait assez de bien. Ni moi, ni personne. C'est si vous avez Jésus-Christ comme sauveur, vous avez le bac automatiquement. C'est-à-dire, c'est lui qui a passé le bac pour vous et il a eu 20 sur 20. C'est ses mérites à lui qui nous sauvent. C'est sa mort sur la croix qui nous sauve. Il est notre avocat, dit la Bible. Hein. Il plaide pour nous et il gagne tous ses procès. Voilà ce que peut nous dire la Bible sur la vie après la mort. Avez-vous déjà pensé à votre vie après la mort? Avez-vous déjà pensé à votre mort? Je sais que ce n'est pas un sujet agréable. On n'a pas envie de s'attarder dessus. Mais c'est très important. Combien d'heures passez-vous à réfléchir à votre week-end? D'heures à passer à réfléchir à vos prochaines vacances? Vous préparez tout ça, vous lisez des livres, vous renseignez sur Internet. Maintenant, Combien d'heures avez-vous passé à préparer votre éternité? Le Seigneur nous parle, la Bible est la parole de Dieu. Et elle nous révèle le plan de Dieu pour notre vie. D'où je viens, où aller maintenant, où j'irai. Et nous, ce qui nous reste à faire, c'est de croire et d'obéir, d'accepter la volonté de Dieu. C'est peut-être ce qui est le plus difficile pour nous, de reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui est plus sage, plus grand, et d'admettre qu'il a raison. C'est ça surtout. Je suis frappé par l'esprit français, parce que j'ai été élevé dans cet esprit français. On a l'esprit de contradiction. Si on vous dit blanc, par définition, vous allez répondre noir. Pourquoi ? Pas parce que vous croyez que c'est noir, mais parce que l'autre vous a dit blanc. Donc, vous ne pouvez pas dire la même chose que l'autre. Vous savez que ça envoie des gens en enfer, ça, cette histoire. C'est complètement idiot. Mais j'étais vraiment comme ça. Il a fallu que je réalise cette folie. Dieu dit, je t'aime, je te cherche, je suis venu te sauver. Alors pourquoi est-ce qu'on lui tournerait le dos? Par principe, je ne veux pas tendre la main à quelqu'un, je n'ai pas besoin d'aide. Mais si j'ai besoin d'aide, face à la vie, face à la mort, j'ai besoin d'aide continuellement. Et ce n'est pas humiliant d'avoir besoin d'aide, c'est réaliste. Vous demandez l'aide de plein de gens autour de vous. Alors pourquoi pas demander l'aide du Seigneur, du Créateur, qui vous connaît, qui vous a créé, qui a un plan pour votre vie, un avenir pour vous. Et je voulais terminer cette conférence par cet appel, justement, à vous tourner vers votre Créateur, à vous tourner vers le Dieu de la Bible, l'auteur de la Bible. La Bible, non seulement est un livre extraordinaire, mais c'est un livre vivant qui va changer votre vie. Mes valeurs sont toutes basées sur la Bible. Mon éternité repose sur cette parole et les promesses qu'elle contient. Et depuis que la Bible est mon livre, ma fondation de vie, ma vie est beaucoup plus stable, équilibrée, solide, éternelle. Tant que je n'avais pas la Bible, j'avais mes propres valeurs et c'était les sables mouvants, hein. Mais quand on base sa vie sur la parole de Dieu, on avance. Alors je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et je prie que vous puissiez considérer cet appel du Seigneur. Ouvrir une oreille attentive à la Bible et à son message. Et ouvrir votre cœur à Jésus-Christ, qui est venu vous chercher, qui vous connaît, qui est vivant, et qui est le Sauveur. Merci. Ce n'est pas comme les autres conférences où on peut avoir des questions après, mais si vous aimeriez parler en privé, prier même, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a aussi un autre pasteur, le pasteur Somerville, un troisième pasteur. Donc vous pouvez venir nous parler et nous serons heureux de vous montrer des versets de la Bible. Encore merci de votre présence et de votre attention.